Bonjour à tous. Des stupéfiants ont été découverts dans l'aide humanitaire destinée à Gaza. L'armée israélienne a aussi trouvé et détruit des armes du Hamas cachées dans des mosquées de la bande palestinienne. Un nouveau sondage nutritionnel conduit par l'UNICEF dans la bande de Gaza apporte des données très éloignées de celles qui avaient accompagné la déclaration de famine à l'été 2025.
Washington fixe un ultimatum aux partenaires économiques de l'Iran. Personne n'échappera aux sanctions, c'est ce qu'a déclaré Scott Bessent hier soir. Et enfin à Bruxelles, de nouveaux tirs ont éclaté à Saint-Gilles pour le troisième jour consécutif. Hier soir vers 21h, le ministre de l'Intérieur se rendra sur place aujourd'hui. Des stupéfiants ont été découverts dans l'aide humanitaire destinée à Gaza. L'armée israélienne a aussi trouvé et détruit des armes du Hamas cachées dans des mosquées de la bande palestinienne.
C'était hier, World Central Kitchen a signalé une tentative de contrebande détectée au sein de convois d'aide humanitaire. Lors de la préparation des repas, des stupéfiants illégaux ont été découverts, dissimulés dans des boîtes de conserve de poivrons, notamment 600 grammes de haschich. Nous considérons avec la plus grande sévérité l'exploitation continue par le Hamas de l'aide humanitaire à des fins de contrebande illicite, a écrit le COGAT sur X. Le Hamas reste le principal obstacle à une amélioration de la situation dans la bande de Gaza. Ça a par ailleurs détruit deux dépôts d'armes du Hamas qui étaient cachés dans des mosquées situées dans les quartiers de Shaati et de Dar el-Bala. Parmi ces armes figuraient des dizaines de fusils Kalachnikov, des chargeurs et d'autres équipements.
Un nouveau sondage nutritionnel conduit par l'UNICEF dans la bande de Gaza apporte des données nettement plus nuancées que celles qui avaient accompagné la déclaration de famine de l'été 2025.
Publiée le 24 août 2026, cette étude fait état d'un niveau particulièrement faible de malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans à Gaza. Un virage à 180 degrés par rapport au constat alarmant formulé l'année dernière. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 0,5% d'enfants touchés. Gaza se retrouverait donc parmi les territoires affichant le taux de malnutrition aiguë infantile le plus faible de toute la région. Autre donnée importante, environ un enfant sur huit à Gaza présenterait un retard de croissance lié à une alimentation déficiente, un taux deux fois inférieur à la moyenne régionale, menée selon la méthodologie de l'Organisation mondiale de la santé auprès de 1300 enfants entre fin mai et mi-juin 2026. L'étude va même plus loin en pointant un problème de surpoids et d'obésité qui concernerait aujourd'hui près de 4% des enfants gazaouis de moins de 5 ans. Ce qui donne la crédibilité à cette analyse, c'est la méthode employée. Pour la première fois depuis octobre 2023, les chercheurs ont utilisé l'indicateur poids-taille, considéré comme l'étalon de référence en matière de malnutrition, car il compare directement les mesures d'un enfant à la norme attendue pour son âge. La déclaration de famine émise en août 2025 par le comité d'examen de la famine de l'IPC reposait sur une autre mesure, le périmètre brachial, qui ne détecterait qu'environ la moitié des cas réels. Ran Kivetz, professeur à Columbia, qui a suivi de près les convois d'aide humanitaire à Gaza, dénonce les rapports et accusations de famine de 2025 comme une politisation totale de la science.
L'armée a annoncé avoir arrêté Imam Azam à Jenin alors qu'il prévoyait de mener une attaque sur le territoire israélien.
Il est le fils d'un terroriste éliminé la semaine dernière en tentant de poignarder un soldat israélien et le frère de l'auteur de la fusillade meurtrière de Dizengoff en 2022 qui a tué 3 Israéliens et en a blessé 6 autres. Après la mort de son père, il avait fait part de son intention de commettre un attentat en représailles.
Le Pakistan indique que son chef d'état-major s'est entretenu avec l'Iran afin d'éviter une nouvelle escalade au Moyen-Orient.
Il tentera également de faire ouvrir le détroit d'Ormuz, c'est ce qu'a indiqué ce matin l'armée pakistanaise dans un communiqué. Le ministre pakistanais de l'Intérieur s'est aussi entretenu ce matin avec le président iranien afin de discuter des mesures pour rétablir le protocole d'accord de Islamabad. Dans le même temps, l'agence britannique des opérations de commerce maritime a signalé qu'un pétrolier avait été attaqué près d'Oman. Pas de blessés, cette nouvelle attaque au large du principal terminal pétrolier saoudien sur la mer Rouge pourrait de nouveau faire grimper les cours du pétrole et inquiéter le monde entier. On est revenu sur ce blocage persistant du détroit d'Ormuz à 8h30 avec Pierre de Jong, ancien colonel de la marine française. Washington fixe un ultimatum aux partenaires économiques de l'Iran. Personne n'échappera aux sanctions, assure Scott Bessent.
Annoncé quelques heures plus tôt comme un D-Day économique, l'offensive américaine contre l'Iran a été officiellement lancée hier par le secrétaire au Trésor Scott Bessent. Baptisée Operation Economic Outcast, elle vise à couper les revenus du régime iranien et à isoler ses relais financiers à travers le monde. La principale nouveauté réside dans les précisions apportées par Washington sur son dispositif. Le Trésor affirme avoir cartographié chaque nœud facilitateur et réseau utilisé par l'Iran pour vendre clandestinement son pétrole et contourner les sanctions. Scott Bessent promet désormais une politique de zéro fuite destinée à bloquer toute source potentielle de revenus. Une première vague de mesures pourrait viser une soixantaine d'entités, de particuliers et de navires liés à l'Iran. Washington prévoit également de recourir aux sanctions secondaires dans cinq secteurs stratégiques, à savoir les actifs numériques, les technologies, l'or, l'aviation et le transport maritime. Les autorisations générales qui permettaient encore certains transferts d'argent vers l'Iran pourraient par ailleurs être révoquées. L'offensive vise notamment un réseau de sociétés intermédiaires et de navires appartenant à la flotte fantôme iranienne, répartis entre les Émirats arabes unis, Hong Kong, la Chine, Singapour, la Suisse et plusieurs pays européens. Le compte à rebours est lancé, a prévenu Scott Bessent. Le président syrien Ahmad al-Shara a remercié le président américain Donald Trump d'avoir retiré son pays de la liste des États soutenant le terrorisme.
Ahmad al-Shara a écrit sur X « Je félicite le peuple syrien, je remercie le président Trump pour cette décision historique ainsi que tous les frères et amis qui ont soutenu la Syrie et les Syriens. » Une décision qui intervient alors que le chef du Mossad a rencontré le chef de la diplomatie syrienne dimanche. Israël aurait fixé des lignes rouges pour un accord diplomatique futur. Les États-Unis font pression pour la reprise complète des pourparlers directs entre Jérusalem et Damas. Des divergences apparaissent au sein de l'appareil sécuritaire israélien concernant l'ampleur des livraisons d'armes iraniennes au Hezbollah à travers la Syrie et la stratégie militaire à adopter face au nouveau pouvoir de Damas. La Syrie apparaît également comme un point de tension potentiel dans les relations entre Israël et la Turquie, alors que les deux pays augmentent leur présence militaire et leur intérêt stratégique dans ce pays. Israël peut-il faire confiance à la Syrie et signer un accord avec Damas? C'est la question du jour qu'on vous pose pour demain. D'après une analyse publiée par l'Institut israélien d'études de sécurité nationale, l'INSS, l'Arabie saoudite a participé aux côtés des États-Unis à des frappes contre des milices pro-iraniennes en Irak.
Et ce, après des attaques de drones visant ses installations pétrolières. Riyad a toutefois précisé que les opérations ne visaient ni l'État ni l'armée irakienne. Le message est clair, le royaume est prêt à combattre les alliés de Téhéran, mais pas l'Iran lui-même. Malgré les missiles et les drones tirés contre les pays du Golfe, les autorités saoudiennes ont maintenu leurs canaux diplomatiques avec la République islamique et cherchait à éviter une extension du conflit. La pression monte également au Yémen. En juillet, l'Arabie Saoudite a frappé l'aéroport de Sanaa pour empêcher la réouverture d'une liaison aérienne directe avec l'Iran. Riyad y voyait une tentative d'établir un corridor permanent vers la zone contrôlée par les Houthis. Des préparatifs en vue d'une opération plus vaste, éventuellement terrestre, sont désormais évoqués. Le royaume saoudien veut aussi créer une force multinationale chargée de sécuriser la mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb et le golfe d'Aden. 13 pays, dont la Turquie, le Pakistan, l'Égypte et la Jordanie, soutiennent ce projet. L'enjeu est vital pour l'Arabie Saoudite. Si le détroit d'Ormuz est menacé à l'est et Bab el-Mandeb à l'ouest, les exportations saoudiennes pourraient se retrouver prises en étau. Benjamin Netanyahou a révélé hier soir que l'Iran avait tenté d'assassiner l'un de ses enfants.
Il s'agit de Yair Netanyahou, c'est quand il était à Miami, après l'élimination du dirigeant iranien Ali Khamenei. Une cellule attribuée au Hezbollah aurait été chargée de s'en prendre à lui en Floride. Les services de sécurité auraient arrêté le projet alors que la cellule se rapprochait déjà de la zone où séjournait le fils du premier ministre israélien. L'opération aurait été déjouée à la dernière minute. À Bruxelles, de nouveaux tirs ont éclaté à Saint-Gilles hier soir vers 21h pour le troisième jour consécutif.
Oui, de nouveaux coups de feu ont été donc tirés hier soir vers 21h au lieu dit de la place des Deux Bancs à Saint-Gilles, au croisement de la rue Gustave Defney et de la rue du Monténégro. Cela a été confirmé par le bourgmestre Jean Spinette. Les tirs ont été effectués avec une arme automatique. Aucun blessé n'est à déplorer. Le tireur a pris la fuite selon Le Mailleur. Il s'agit du deuxième incident de tir en trois jours à ce même endroit. Le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin doit se rendre aujourd'hui à Saint-Gilles. Jean Spinette, le bourgmestre de Saint-Gilles, donc, était notre invité ce matin à 7h30. Vous pourrez réécouter cet entretien comme tous ceux de cette matinale sur radiojudaica.be.
En Belgique, toujours, l'ambassadeur américain Bill White est monté au créneau après la suspension par l'université de Gand de Nathan Kofnas, au cœur de la polémique qui a précédé la mort de l'ancien professeur de Cambridge, Jason Hardy.
Les États-Unis réévaluent leur lien avec l'université de Gand après que celle-ci a suspendu le chercheur post-doctorant Nathan Kofnas. C'est ce qui a été annoncé par l'ambassadeur américain Bill White sur X. Selon Rick Torfs, la suspension de Nathan Kofnas heurte la liberté académique. Dans un entretien avec 21 News, l'ancien recteur dénonce le conformisme idéologique à l'université et dans la culture. L'université perd ainsi la confiance de la population. Dans les colonnes de La Libre, l'historien Serge Jomin a lui réagi. L'ambassadeur des États-Unis en Belgique n'est évidemment pas intervenu par inadvertance dans la polémique. Les ambassadeurs des États-Unis à l'étranger sont directement liés au président, décrypte Serge Jomin, historien à l'ULB et spécialiste de l'Amérique du Nord. Ce ne sont pas toujours des diplomates qui sont désignés, mais même quand ils n'en sont pas, ces ambassadeurs se comportent d'habitude comme des diplomates. Ils respectent la politique des pays dans lesquels ils se trouvent. Pour son second mandat, Donald Trump a nommé très vite des gens qui sont pour la plupart très proches de lui, mais aussi ce que j'appellerais de vrais Trumpistes, dans le sens où ils font passer leur idéologie avant leur rôle diplomatique. Ce sont donc les mots de Serge Jomin dans les colonnes de La Libre. Une lettre ouverte s'opposant à une possible sanction contre le chercheur Nathan Kofnas a déjà recueilli près de 700 signatures en Belgique. Les signataires demandent à la rectrice de l'UQENT, Petra de Sutter, de ne pas sanctionner Nathan Kofnas pour ce qu'il considère comme l'exercice de sa liberté académique et la dénonciation publique de possibles manquements à l'intégrité scientifique dans des universités britanniques.
Bruxelles, soulagement pour les utilisateurs de trottinettes et vélos en libre service. Le gouvernement a finalement prolongé les services de mobilité partagée au moins jusqu'au 1er janvier 2027.
Oui, le gouvernement bruxellois a finalement décidé de prolonger les autorisations et opté pour un régime transitoire. C'est ce que l'on apprend via BX1. Un soulagement pour les utilisateurs et les opérateurs actifs sur les 19 communes qui craignaient une mise à l'arrêt définitive ce 1er septembre, initialement décrétée cet été. Selon BX1, les sociétés actives sur la capitale pourront donc continuer à mettre leur flotte vélo et trottinette partagée à disposition des Bruxellois au moins jusqu'au 1er janvier 2027. À cette date, les opérateurs devront retirer les trottinettes de la voie publique et seuls les vélos seront toujours autorisés.
Un mot de sport à présent. Hier soir, lors de leur deuxième match de la deuxième phase de groupe de la Coupe du Monde féminine de hockey sur gazon, les Belges ont fait match nul contre l'Argentine, 0-0.
Oui. Oui, Didier, les Red Panthers, dirigés depuis peu par l'Australien Adam Coman, se sont assurés de figurer dans le dernier carré de la Coupe du Monde féminine de hockey, mais ne pourront pas se prévaloir d'une victoire contre l'Argentine. Dominées lors du premier quart, elles ont pu reprendre la main par la suite sans réussir à marquer, tout comme le camp adverse. Les Belges terminent donc deuxième de leur groupe et affronteront les Pays-Bas en demi-finale aux Pays-Bas, au stade Wageners à Amstelveen. On termine sur une note positive. Alexandra Edmondson et James McIntosh se marieront près de Bondi Beach le 20 novembre 2026. Leur histoire d'amour a commencé le 14 décembre 2025 au cœur de l'attentat terroriste antisémite qui a coûté la vie à 15 personnes en Australie.
Alexandra Edmondson et James McIntosh venaient de terminer une formation sur les techniques de réanimation. Ils s'étaient liés d'amitié pendant cette formation et avaient prévu d'assister ensemble à la fête de Noël du Bondi Surf Club ce dimanche fatidique. Cachés derrière des rochers, ils sont ensuite descendus sauver des blessés quand les tirs ont cessé et se sont dit choqués par l'antisémitisme en Australie dont ils n'avaient pas conscience. Dans les jours qui ont suivi l'attentat, ils se sont rendus compte qu'ils étaient tombés amoureux et se sont également rapprochés de la communauté juive. Ils ont rencontré le rabbin Levi Wolf qui a fait la cérémonie en l'honneur des premiers intervenants à la synagogue centrale locale. La communauté s'est montrée extrêmement solidaire et enthousiaste selon eux. Le couple a donc finalement demandé au rabbin Levi Wolf de les marier. Leur mariage sera le premier mariage non-juif qu'il célébrera à Bondi Beach. On leur souhaite d'ores et déjà un grand Mazel Tov.